Nous avons constaté qu'il y a beaucoup de problèmes de déperdition le long des différentes étapes, depuis son enregistrement aux consultations prénatales jusqu'à la fin de l'exposition du risque de transmission. Et nous recherchons à l'heure actuelle des voies et moyens pour diminuer cette perte de vue le long de la cascade. Précédemment, avec des financements de PEPFAR à travers l'Institut national de la santé des États-Unis, nous avons évalué ici l'utilisation des transferts monétaires conditionnels, mais on était encore à 80% de femmes retenues le long de la chaîne des soins, ce qui indiquait qu'il y a d'autres problèmes qui se posent, notamment les problèmes de la qualité des soins dans les structures.
Est-ce que ces soins sont gratuits?
Dans les pays appuyés par PEPFAR, qui est le programme d'urgence du président américain pour la lutte contre le VIH, les soins sont généralement gratuits. Dans les 21 pays en Afrique subsaharienne dits prioritaires, par l'ONU-SIDA, puisque ces pays regorgent plus de 80% des femmes enceintes VIH positives. Généralement, ces pays sont appuyés par PEPFAR et les soins sont gratuits.
Dans l'étude, justement, de PEPFAR sur ce sujet, il est dit « Nous avons les outils en ce moment pour réduire l'incidence des nouvelles infections, mais nous avons besoin d'appliquer ces outils de manière plus efficace. » Que voulez-vous dire par là ?
Cela veut dire que nous avons des traitements qui permettent de réduire la transmission de la mère à l'enfant à moins de 1%. Mais quand on regarde les statistiques qui viennent de ces différents pays, les 21 pays que je viens de mentionner au sud du Sahara, on est loin du compte.
Quels sont les obstacles justement à ce bon fonctionnement?
Le premier obstacle, c'est que les femmes viennent en consultation prénatale, là où elles sont diagnostiquées. Parfois, elles ne reviennent pas à accoucher dans la même structure. Mmh. Ou elle accouche dans la même structure et après quitte la structure pour aller ailleurs. Ce qui veut dire donc que quand elles ne reviennent pas, elles ne sont plus sous traitement. Et si elles ne sont plus sous traitement, le risque de transmettre le VIH chez leur enfant devient élevé. Les cliniques là où elles vont accoucher, où elles ont quitté, si ces cliniques n'ont pas de service de VIH, si ceux qui sont là ne prennent pas la peine de la tester à nouveau, c'est là où on a des déperditions sans que personne ne sache qu'elle est VIH positive.
Comment procédez-vous aussi pour pouvoir amener toutes les femmes à se faire tester?
Le protocole à l'heure actuelle dans la plupart des pays, c'est que toute femme qui vient en consultation prénatale est testée. Mm-hmm. Mais généralement, après ça, les femmes qui, malgré que l'OMS le recommande pour des raisons diverses, les femmes qui viennent après l'accouchement dans les services de soins de santé maternelle et infantile ne sont généralement pas retestées.
Si on reçoit une femme qui va accoucher dans un centre médical, elle est sur le point d'accoucher, on ne sait pas si elle est séropositive ou non. Comment procède-t-on?
Pour le moment, le protocole demande de la tester si elle est en salle d'accouchement. Parce que le risque pour une mère de transmettre le virus à son enfant est le plus élevé au moment du travail et de l'accouchement. Et dans la plupart des structures qui ont les services de prévention de transmission mère-enfant, les personnels des salles d'accouchement sont formés pour tester les femmes qui arrivent en salle d'accouchement sans que leur statut VIH soit connu. Et si ces femmes sont positives, ils ont généralement les médicaments sur place pour commencer le traitement immédiatement.
Et est-ce qu'il n'est pas trop tard à ce moment-là?
Bien évidemment, il est trop tard. Pour vraiment atteindre les objectifs de moins de 5% de transmission pour les femmes enceintes, pour de moins de 2% de transmission à 6 semaines, ou pour les femmes qui n'allaitent pas, il faut commencer le traitement avant la 14e semaine de grossesse et rester sur ce traitement. C'est-à-dire quand on arrive en salle de grossesse, le risque de transmettre pendant la grossesse du VIH varie de 8 à 15%. Donc, on peut déjà avoir transmis le VIH à son enfant au moment du travail, quand le travail commence.
Et au moment de l'allaitement, alors, quel est le pourcentage de risque ?
Vous allaitez entre 18 et 24 mois, comme c'est généralement le cas ici en Afrique subsaharienne, ça ajoute un risque de l'ordre de 10 à 15%. Et pour prévenir cela, il faut que la femme reste sur le traitement pendant toute la durée de l'allaitement.
Qu'est-ce que vous préconisez comme méthode innovante pour parfaire, cette situation de femmes qui ont le sida et qui risquent de transmettre cette maladie à leur futur nouveau-né?
Dans la plupart des pays en Afrique subsaharienne, particulièrement les systèmes de soins maternels et infantiles, ont été conçus pour fournir des soins ponctuels. Et le VIH tel qu'il doit être géré sont des soins chroniques qui demandent à revoir la patiente tous les jours. C'est un Il n'y a pas de bâton magique pour pouvoir faire cela. C'est une combinaison d'interventions qui vont permettre de pouvoir améliorer la rétention des femmes et atteindre les objectifs que l'Assemblée des Nations Unies s'est fixés pour l'élimination du VIH pédiatrique.